Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 7 septembre 2024 et on a enfin conclu cette semaine de l'emploi. C'était pas forcément très très folichon puisque finalement on n'a pas eu un seul jour en vert sur le S&P 500 durant la semaine. Donc c'était baisse, baisse, baisse et baisse. Et on a conclu la semaine avec un dernier coup de couteau dans le dos avec les chiffres des NFP. Donc on va faire un peu le tour de tout ça. Bien sûr, on va parler de l'économie suisse, de la Suisse, de certains titres suisses qui ont quand même un petit peu bougé, d'un SMI qui s'est fait quand même bien, bien, bien démonter durant la semaine, plutôt pour des raisons, on va dire, macroéconomiques. Le SMI a baissé parce que tout a baissé. Le SMI n'a pas baissé parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles sur certaines de ses sociétés, des grosses en tout cas. Mais comme d'habitude, quand ça va mal et quand tout le monde va mal, eh bien la Suisse s'enrhume également. Et résultat, ils ont tapé sur les gros titres comme d'habitude. Et le SMI s'est pris une jolie petite claque sur la semaine, un peu à l'image de l'ensemble du marché, puisqu'on le verra tout à l'heure sur les performances de la semaine. Eh bien, tout est dans le rouge. Alors bien sûr, le sujet de la semaine, j'ai envie de dire l'unique sujet de la semaine, eh bien c'est les chiffres de l'emploi. Alors c'est un gros morceau cette semaine, les chiffres de l'emploi américain bien sûr, des chiffres qui étaient mauvais tout au long de la semaine, sauf les jobless claims qui nous ont un peu sauvé les fesses jeudi. Mais franchement, il n'y a pas de quoi la ramener parce qu'on sait que ça ne veut pas dire grand-chose non plus. D'ailleurs, le reste des chiffres ne veut pas dire grand-chose, mais peu importe. Les jobs étaient nettement plus faibles. Les chiffres ADP sont sortis en dessous de 100 000, nettement en dessous des attentes, quasiment 50 000 en dessous des attentes. Et puis alors, vendredi, c'était le couronnement de tout ça, puisque les NFP sont sortis à 142 000 contre 160 000 attendus, plus ou moins. On va dire que c'est moins pire que ce qu'on pouvait craindre. Maintenant, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est un autre débat. Ce qui nous a sauvés, entre guillemets, même si les marchés américains ont fini au fond du bac vendredi soir, c'est le fait que le taux de chômage était en ligne avec les attentes, donc il reste à 4,2%. Mais de nouveau, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça est réellement réel? Parce que franchement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, on a vraiment l'impression que le BLS, le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis, se fout de nous, ou alors les gars sont incapables d'additionner 2 plus 2 pour arriver à 4, hein, parce que c'est très très compliqué. Si on regarde un petit peu les chiffres de vendredi, c'est vrai que juste brut, eh bien les chiffres pour les créations d'emplois du mois d'août n'étaient pas si mauvais que ça, 142 000 créations d'emplois. Franchement, quand on a vu ce qui s'est passé le reste de la semaine, on s'attendait à pire, donc c'est pas trop mal. Mais le gros problème derrière, c'est les révisions. Ils ont révisé les chiffres du mois de juin, ils ont révisé les chiffres du mois de juillet. Donc encore une fois, ça veut dire que les gars sont à côté de la plaque, que les chiffres sont nettement plus faibles. Et si vous regardez ce tableau-là, eh bien on se rend compte que les chiffres fournis par le BLS sont grosso modo que de la daube et puis qui sont systématiquement révisés et j'ai envie de dire pratiquement la plupart du temps à la baisse. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à leur donner la moindre valeur? Sans compter que depuis janvier 2023, c'est pratiquement tout le temps des révisions à la baisse, hein. Vraiment, vous voyez ici, vous pouvez regarder le graphique en détail, on va pas y passer des heures, mais l'un dans l'autre, les différences de révision que vous avez dans la colonne à l'extrême droite, eh bien, sont systématiquement ou presque négatives. Et on peut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on croit encore à ce qu'ils disent. Alors, si on regarde juste les chiffres en détail, quand on parcourt ce tableau, eh bien, sur les chiffres de l'emploi du mois de juin et du mois de juillet, eh bien, ils ont été révisés à la baisse pour un total de 86 000 emplois. En juin, on a supprimé 61 000 emplois, on est passé de 179 000 qui ont été annoncés au début du mois de juillet à 118 000. Vous vous rendez compte l'impact énorme que cela aurait pu avoir sur les marchés. Le rapport de l'emploi du mois de juillet a été révisé à la baisse de 25 000 emplois. Ils sont passés de 114 000 à 89 000. On est en dessous des 100 000 créations d'emplois pour le mois de juillet. Donc en gros, eh bien, le rapport du mois de juillet, si on tient compte de la correction, eh bien, il est plus faible que les chiffres de la pandémie en décembre 2020 au niveau de l'emploi. Donc j'ose même pas imaginer ce qu'ils vont nous sortir début octobre avec les révisions pour les chiffres du mois d'août qui probablement sont également faux comme le reste. Donc tout ça n'est pas bon et tout ça nous montre clairement que, un, on ne peut absolument pas faire confiance à ces chiffres de l'emploi. Ça fait longtemps que je le dis, mais ces chiffres sont complètement bidonnés et ne veulent absolument rien dire. Mais pourtant, ils ont des conséquences sur le marché. Et c'est ça qui est très très grave. C'est le fait qu'aujourd'hui, on continue à donner une crédibilité à ces chiffres et on essaie d'en tirer des conséquences. Vous imaginez aujourd'hui que les mecs de la Fed, qui ont tous parlé vendredi soir pratiquement, enfin pas tous, il y en avait deux ou trois qui parlaient pour dire oui. Maintenant c'est bon, il faut absolument baisser les taux, il faut faire des multiples baisses de taux. Les gars, ils paniquent à cause des chiffres de l'emploi qui ne sont même pas fiables. Alors c'est clair, ils sont pas bons, hein. Ils sont pas corrigés dans l'autre sens, donc clairement ils sont pas bons. Et donc il faut vraiment s'inquiéter par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on a un marché boursier, un marché financier mondial qui réagit sur des chiffres qui sont juste faux et qui sont corrigés une à deux fois, voire trois fois au fur et à mesure des mois suivants. Je me demande comment est-ce qu'on peut donner un minimum de crédibilité à ce genre de réaction de marché alors que finalement, c'est que du bidon. Alors quand on regarde tout ça, eh bien évidemment, on va en direction d'un risque de récession, et c'est ce qui commence à revenir régulièrement, même si de nouveau, comme je le disais hier, les banquiers centraux continuent de dire non, tout va bien, l'économie est solide, l'emploi est solide. Encore une fois, eh bien, ça n'a pas l'air d'être aussi clair que ça. Le seul chiffre qui nous a un petit peu sauvé les fesses cette semaine, qui nous a rassuré, j'ai envie de dire, c'est l'ISM des services qui, lui, était meilleur que les attentes. Donc, du coup, on se dit, ah bah oui, il y a au moins celui-là qui va bien. Mais par contre, l'ISM PMI, c'était une catastrophe. On l'a vu en début de semaine. Donc, l'un dans l'autre, on a un bilan macro sur la semaine qui était juste catastrophique et qui représente ça. Donc sur la première semaine de septembre, le S&P 500 a effacé 2 200 milliards de market cap. Et puis rien que sur Nvidia, ben ça représente 400 milliards, hein. Donc l'indice S&P 500 n'aura pas vécu une seule journée de hausse depuis le début du mois de septembre. Donc si on tire un bilan de cette semaine, parce que franchement, il n'y avait que de la macro, ben c'était mauvais, ça ne va pas bien. Au début de la semaine, et je vous ai bassiné durant toute la semaine pour vous dire, oui, de toute façon, les chiffres de l'emploi seront le déterminant pour savoir si la Fed va baisser les taux de 0,25 ou de 0,5%. Et si la Fed baisse de 0,5%, c'est qu'il y a un risque de récession. Alors, selon les chiffres qui sont sortis vendredi, eh bien, la Fed devrait baisser les taux de 0,25%. C'est le consensus qui parie là-dessus. Donc ça, c'est plutôt rassurant, ce qui veut dire qu'on ne craint pas trop une récession. Par contre, on avait au passage quand même des gars comme Joseph Stiglitz, qui est quand même prix Nobel d'économie, ce fera, qui est venu dire que maintenant, la Fed ne devait pas se poser de questions, baisser les taux massivement pour essayer d'éviter de tomber en récession. Ils ne sont pas tous d'accord, visiblement. Il y en a forcément un qui aura raison à un moment donné ou un autre. Ça, on verra ça dans les mois à venir. Mais franchement, pour l'instant, ça ne sent pas super bon. Et ça ne sent pas super bon, surtout sur les performances du marché américain. Techniquement, c'est pas beau et on a un peu l'impression que la baisse n'est peut-être pas forcément terminée. Quand on regarde un petit peu les graphiques qu'on va voir tout à l'heure, je me réjouis pas forcément de la semaine prochaine. En Suisse, par contre, l'inflation a encore diminué. On est passé de 1,3% à 1,1%. Et puis, les prix à la consommation ont plus ou moins stagné. Alors que pour l'instant, les économistes du gouvernement suisse tablent sur un renchérissement de 1 à 1,3% sur l'économie suisse. Sur le deuxième trimestre, eh bien, la Suisse a enregistré une croissance de 0,5%. C'est du délire. Enfin, ça recoupe un peu bien les chiffres qu'on a au niveau de l'inflation. Donc 0,5% de croissance sur la Suisse. Et c'est surtout la chimie et la pharmaceutique qui a soutenu ces chiffres. Autrement, le secrétariat d'État à l'économie a estimé que le reste des performances sur les autres branches était variable. Communiqué extrêmement précis qui nous permet bien d'imaginer ce que sera la suite. Autrement, sur un sondage de la Raiffeisen, les PME sont plus optimistes que l'année passée. Hein, 70% des PME sondées sont enthousiasme pour l'avenir et l'année passée on était à 62%, donc là aussi ça va plutôt pas mal. Le chômage a augmenté à 2,4% contre 2,3% le mois passé. Au total, il y a 111 000 personnes qui sont au chômage et on a une augmentation de 3 600 personnes au chômage en Suisse sur le mois dernier. Et autrement, l'indice du climat à la consommation s'est établi à moins 34,6 contre moins 32,4 le mois dernier. Et grosso modo, eh bien, les Suisses se sentent plus pessimistes sur l'avenir. Par contre, ils sont plutôt confiants et restent plutôt stables sur le futur de leur stabilité financière. Donc l'un dans l'autre, quand on regarde un petit peu les chiffres qui ont été publiés sur l'économie suisse, eh ben, on se dit que ça va, c'est pas l'euphorie, c'est pas très dynamique non plus. Mais par contre, ça va. Contrairement à d'autres pays, c'est moins volatile et ça permet de garder effectivement une certaine stabilité, ce qui n'est pas forcément l'image du SMI cette semaine. Si l'on regarde les performances de la semaine, alors comme je vous l'ai dit, il y a une seule couleur, c'est le rouge. Même l'or est en baisse de 0,03%. Et puis, alors de l'autre côté, vous avez le Philadelphia Semiconductor Index qui se prend 12% dans la figure. C'est clair que quand vous avez une Nvidia qui perd plus de 400 milliards de market cap sur la semaine, ça fait très mal. Le Bitcoin se fait massacrer également, moins 8%. Le pétrole, moins 7,3%. Ça, c'est les anticipations de ralentissement économique. Le Nasdaq, moins 5,77%. Le Nikkei qui suit le mouvement avec 5,8%. Le S&P 500 perd 4,25% pour entamer ce mois de septembre. Et le SMI perd 4,2%. On a presque l'impression qu'il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'indice suisse. Le CAC 40 perd 3,65%, ça c'est merci le luxe, on va revenir dessus. Le DAX s'en sort un peu moins mal avec 3,2% de baisse malgré le décès quasiment annoncé de Volkswagen. Non, j'exagère, mais c'est vrai que tout ce qui se passe pour Volkswagen ne rassure pas forcément. Et on voit quand même que l'industrie allemande est en difficulté. Et puis tout le reste, alors ça va un petit peu moins mal. La Chine, qui continue à montrer énormément de faiblesses économiques, s'en sort, j'ai envie de dire, moins mal que le reste. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine de bourse était vraiment très mauvaise et moins violente que celle qu'on a vécue au début du mois d'août. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est presque pire parce que c'est généralisé. Au niveau du SMI, alors il y a à boire et à manger. Vous avez du Richemont qui perd 10%, ABB qui perd 7%, ralentissement sur la techno, bien sûr. Richemont, bah, c'est le luxe, on va en reparler tout à l'heure. Logitech qui perd 7% parce qu'il y a toujours sa bagarre juridique pour choisir son CEO parce que l'ancien fondateur n'est pas d'accord. Ça continue et ça pèse sur le moral des investisseurs, bien évidemment. Et puis après, bah, on a Novartis, Nestlé et Roche qui se prennent tous une claque durant la semaine. La raison, il n'y a pas de raison, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, c'est que la raison principale, c'est que pour l'instant, c'est macro. Donc, on tape sur les indices et en tapant sur les indices, eh bien, forcément, il faut taper sur les gros pour que ça bouge. On a Partners Group aussi, on va y revenir dans les vedettes de la semaine qui s'est pris une claque. Et puis, vous avez Swisscom qui fait partir des winners de la semaine et Givaudan qui avait fait des commentaires positifs récemment, qui s'en sort pas trop mal. UBS se prend 6,5%, on en touchera aussi deux mots tout à l'heure, mais là aussi, c'est un peu... tout le monde est parti avec l'eau du bain sans qu'il y ait spécifiquement des grandes nouvelles à annoncer. Alors, on est parti pour l'aspect technique des choses. Alors, vous voyez, ce qui est quand même assez fabuleux cette semaine, c'est que l'analyse technique fonctionne relativement bien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été chercher le haut de ce range, mais on a été chercher quasiment la résistance des 12 569 sur le SMI. Et puis, on revient. Donc, il va falloir se préparer pour remettre des billes dedans sur la zone des 11 750 qui correspond à la moyenne mobile des 200 jours. Si les choses se calment, et les choses se calmeront en fonction du reste des marchés. Le Dow Jones qui avait commencé la semaine relativement bien s'en sort relativement moins mal que les autres, mais marque quand même le pas parce que si vous regardez techniquement, eh bien on a été chercher plus ou moins les mêmes points hauts qu'on avait avant. C'est pas tout à fait horizontal, mais pas loin, on a fait un reversal quasiment sur l'espace de 24 heures. Donc là, c'est assez impressionnant. Là aussi, vous voyez qu'on peut revenir facilement sur cette ancienne zone de résistance qui est devenue une zone de support. Donc, premier support sur le Dow Jones se situe autour des grosso modo 39 950. Mais si ça casse, on va à 38 580 sur la moyenne mobile des 200 jours également. Le S&P 500, je vous le disais, double top or not double top. Et je vous disais encore hier, je crois qu'il fallait surveiller la moyenne mobile des 50 jours. Eh bien, vous voyez, la moyenne mobile des 50 jours, elle a littéralement explosé hier soir. Donc, ça a cédé, ça a ouvert les portes aux vendeurs. Là aussi, franchement, j'ai envie de dire que la porte est ouverte à toutes les fenêtres. Il semblerait plutôt logique qu'on ait cherché cette zone-là à 5170, à 5200, disons, sur le S&P 500. Ça, ce sera le prochain support entre deux. Franchement, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait comme ça. Peut-être qu'on peut grappiller quelque chose ici, parce que là, il y avait une espèce d'ancienne zone de support à cette époque-là. Mais de là à dire que ça va suffire pour tenir dans l'environnement dans lequel on est, Franchement, ça fait un tout petit peu souci, surtout quand on regarde la tronche de la techno. Alors le moins pire dans la techno, c'est le Nasdaq. Alors vous voyez que très clairement, contrairement aux indices, on va dire un peu plus diversifiés comme le S&P 500 ou le Dow Jones, eh bien on n'avait pas réussi à revenir sur les hauts historiques qui se situent là. Après l'histoire du carry trade de début août, on s'est enfoncé jusqu'au point de rebond. On a rebondi, mais moins haut que les autres. Et donc ce petit bout-là qui nous a manqué fait qu'aujourd'hui on est dans une tendance baissière contre laquelle on a buté effectivement et on repart à la baisse. Donc là aussi, support sur le Nasdaq à 18 070, c'est la moyenne mobile des 200 jours. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'on va aller chercher les exagérations pour aller chercher un double bottom ici? Ça c'est le grand suspense. Quand on regarde les indicateurs RSI, il y a encore de la place pour continuer à descendre. Donc franchement, c'est pas hyper rassurant. Et puis alors celui-là, c'est l'immonde graphique de la semaine. C'est le SOX. Alors le SOX, lui non plus, n'a pas réussi à rebondir à l'époque, réussi à retourner à ses plus hauts historiques. Il a buté pire contre la moyenne mobile des 50 jours. Il a cassé la moyenne mobile des 200 jours hier. Franchement, prochain target, le bas de l'histoire du carry trade qui se situe par ici. Et si ça tient pas, j'ai mieux pas. Je sais pas quoi vous dire. Si ça ne tient pas, franchement. Il y a un adage boursier qui dit « Never catch a falling knife ». Mais là, alors franchement, ça correspond mieux que mieux. Parce que là, on a un dernier support ici, comme vous le voyez, qui passe par là et là. Donc 4300 sur le SOX. Si on casse les 4300 à la baisse, j'ai l'envie de dire qu'on risque d'avoir une correction qui va nous laisser des traces et qui va faire très très mal. Il est vrai qu'on peut retourner sur le bottom de décembre 2021. La seule chose qui me dit que peut-être ce ne sera pas la catastrophe totale, eh bien, c'est les élections, parce qu'il est possible que potentiellement les candidats vont tout faire, ou en tout cas les pouvoirs en place vont tout faire pour que ça ne donne pas une gueule trop mauvaise. Évidemment, vous imaginez que si on a une correction de 20% sur les marchés d'ici les élections du mois de novembre, je pense que Kamala Harris ne va pas marquer des points. Le CAC 40 est reparti dans ses vieux travers. Hein. Vous voyez qu'on était revenu gentiment à l'intérieur de cette tendance latérale qu'on a ici. Et on a recassé vendredi soir. De nouveau, grosse pression sur le luxe. On va revenir dessus en détail dans un petit moment. Mais grosse pression sur le luxe qui fait que le CAC ne tient pas pour l'instant. Et le CAC se rencontre aussi peut-être que la France continue de s'enfoncer dans une crise politique, puisque ce n'est pas forcément la nomination de Michel Barnier qui va régler le problème. Le DAX qui s'est bien retourné. Alors la semaine dernière, je crois me souvenir de vous avoir dit que c'était incroyable comme le DAX tenait malgré l'environnement politique, malgré l'environnement industriel en ce moment. Et là, ça craque. Alors, on a eu deux mauvaises séances, une violente, puis deux jours de stabilisation et une dernière violente ce vendredi. Franchement, si on ne tient pas la moyenne mobile des 50 jours, ça risque d'aller très, très vite pour se prendre encore 1000 points dans la figure sur le DAX. Je serais même pas surpris qu'on aille rapidement rechercher les 17 000 sur l'indice allemand. Le pétrole, là aussi, vous le voyez, ça casse. Donc, le target est beaucoup plus bas sur le baril. On peut chercher comme on veut. Ce grand triangle que j'avais dessiné à l'époque a clairement été cassé à la baisse. Donc si on applique ça, eh bien on va aller chercher en dessous des 48 sur le baril. En revanche, si on se contente de ce triangle-là qui a également cassé à la baisse, eh bien là, on peut se dire qu'on a une différence de mouvement quand même. Allez, on va pas non plus peindre excessivement le diable sur la muraille et chercher quand même des choses positives aujourd'hui, enfin moins catastrophiques. Si on prend cette flèche-là, tac, et qu'on la recoupe ici, à la cassure, eh bien, je pense que dans un premier temps, on a un objectif à 60 sur le baril, qui serait déjà pas mal. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra surveiller prochainement. Je vous ai déjà redit plutôt sur le baril que finalement, eh bien, il souffrait de ce ralentissement économique. Et c'est vrai que les chiffres de l'emploi américain nous ont montré clairement que ralentissement économique il y avait. Et puis en plus, on voit très bien que eh bien, les Américains continuent de forer comme des malades et arrosent le marché avec leur stock. L'or continue encore et encore. C'est le seul truc qui tient en fait. Donc c'est ce truc qui est moins mal, malgré qu'on finit quand même la semaine en baisse de 0,03%. Mais bon, l'or, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans cette configuration technique aussi, hein, espèce de, là aussi, de bisou à son vent. Si ça commence à accélérer à la hausse, eh bien, je pense que les 3000, finalement, c'est pas complètement exclu de les imaginer. Mais pour l'instant, eh bien, tendance haussière sur l'or. Contraction quand même sur les prix, parce qu'on voit que ça fait quand même un moment qu'on traîne en 2490 et 2510 et 2525. Qu'est-ce qui va nous être déclencheur pour aller casser plus haut? Peut-être à la continuité de la correction sur les marchés. Et puis alors, rapidement sur les cryptos qui ne sont pas mon domaine d'expertise. Alors, vous voyez, le Bitcoin est en train de revenir sur les bas de ce range. Attention, attention sur le Bitcoin, parce que c'est encore la crypto qui se comporte le moins mal. Si vous regardez l'Ether, ça ressemble vachement au SOX, sauf qu'il a déjà cassé absolument tout. Je ne sais pas où c'est qu'il va s'arrêter. On peut espérer qu'il va s'arrêter 700$ plus bas. Et puis, comme pour confirmer la chose, vous avez Coinbase, qui est le plus gros exchange de crypto, plus ou moins. Qui est en train aussi de tout péter à la baisse et qui commence à avoir une tronche absolument immonde. Donc pour l'instant, j'ai presque envie de dire, c'est assez inquiétant ce qui est en train de se passer sur les cryptos, comme s'il y avait une espèce de démission ou de désintérêt depuis que les ETF ont été créés. Du côté de Partner Group, ça ne se passe pas très bien du tout. Donc il y a un ralentissement au niveau des recettes, un ralentissement de l'ordre de 7%. Les commissions de gestion sont en hausse de 4%, mais par contre, les commissions de gestion liées à la performance se sont pris 39% dans la figure. Ils ont dû reporter plusieurs de leurs sessions d'actifs. Ils sont en train de préparer un calendrier de redressement, mais bon, ça n'a pas du tout plu au marché. Grosso modo, sur la semaine, donc le titre s'est pris 10% dans la figure. Graphiquement, on revient pile poil sur les niveaux des 1090, niveau qu'il ne faudra pas lâcher. C'est vrai qu'on avait eu cette impression qu'on était en train de faire une espèce de soupière ici qui nous devait nous donner l'impulsion derrière. Mais pour l'instant, c'est plutôt en train de se traiter dans un range assez étroit, là, autour des 1000, 1100, et que le support est par là autour, là en bas. Et que si on vient à casser les 1050, j'ai peur qu'on se retrouve rapidement en direction des plus bas de ces derniers temps, donc en direction des 800 francs sur Partner Group. Quand vous regardez le chart que vous avez sous les yeux à l'instant, c'est le chart de Dormakaba. Alors vous vous dites, waouh, les gars, ils ont dû annoncer des trucs absolument phénoménaux. On voit que cette tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis un bon moment sur Dormakaba s'est accélérée encore. Et dans l'environnement de marché dans lequel nous sommes, c'est un exploit. Donc on casse la tendance à la hausse et on a une accélération. Donc on se dit, logiquement, les chiffres devaient être canonissimes et les commentaires de la société phénoménaux. Mais que nenni, Dormakaba a annoncé des chiffres en baisse à peu près partout. Donc grosso modo, eh bien, on a un chiffre d'affaires en baisse, on a un bénéfice net en baisse. Bref, et puis ils font surtout état d'une situation difficile et compliquée. Mais par contre, on a constaté une amélioration sur les marges. Donc, boum, tout le monde était content. C'est assez fou de se rendre compte quand même qu'il y a toujours et encore ce genre de situation où on vient gratter un petit peu la bonne nouvelle qui pourrait nous dire, ah, mais il y a encore de l'espoir. Et donc, du coup, malgré des chiffres plutôt décevants et un commentaire plutôt prudent sur l'environnement économique, eh bien, Dormakaba fait partie des vedettes de la semaine. Parlons un petit peu du luxe. Alors le luxe est un secteur toujours assez particulier puisqu'on se dit oui mais les gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup beaucoup d'argent, c'est pas parce que le marché perd 20% ou que l'économie ralentit qu'ils vont arrêter d'acheter des sacs Hermès, des cravates Hermès, des montres chez Richemont ou chez Swatch ou bien alors des baskets chez Louis Vuitton. C'est pas ce qui va les empêcher de continuer de consommer. C'est vrai, en général c'est plutôt vrai et c'est plutôt rassurant dans les périodes un petit peu difficile économiquement parlant. Sauf que là, depuis quelques temps, eh bien, on a un peu l'impression quand même qu'il y a eu un effet de mode pendant une grande période où tout le monde voulait acheter du Hermès, même ceux qui n'avaient pas forcément des moyens hein, dithyrambiques. Tout le monde voulait du Hermès, tout le monde voulait des produits de luxe. Le produit de luxe est devenu une denrée vraiment très intéressante, une denrée vraiment à la mode. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'habiller en Hermès ou en Vuitton, eh bien, commencent à se dire, bon, bah, ok, je me suis fait plaisir pendant quelques temps, là, c'est plus compliqué, donc je vais faire attention, donc je vais moins consommer dans un premier temps, en tout cas en espérant que les choses se calment. Donc il y a cette espèce de ralentissement, on va dire, du client opportuniste qui se fait quand même ressentir, et Hermès l'a expliqué cette semaine. Donc ça pèse aussi vraiment sur le secteur du luxe parce qu'on se rend compte que les clients occasionnels, eh bien, ils sont un peu moins motivés que d'habitude. Alors bien sûr, il y a toujours la base de clients qui n'en ont rien à faire et puis qui vont continuer à consommer parce que l'argent n'est qu'une information, mais vous avez toute cette partie de clientèle opportuniste qui se pose beaucoup de questions, qui a été mentionnée par Hermès cette semaine et on voit que bah, c'est beaucoup plus compliqué de ce côté-là et donc ça fait quand même un trou dans les ventes. Pas monstrueux, mais un trou quand même. Et puis en même temps de ça, eh bien, vous avez la Chine qui continue à publier des chiffres de merde, excusez-moi, du terme. Aujourd'hui, la Chine n'arrive pas à redémarrer. Ça fait des mois qu'on parie sur le redémarrage de la Chine, blablabla, mais rien ne se passe. Et les chiffres continuent d'être médiocres pour ne pas dire mauvais. Et au passage, eh bien, on a encore eu pas mal de downgrades, de commentaires extrêmement négatifs de la part de grands banquiers américains qui retirent leur recommandation de prendre le pari d'acheter la Chine pour l'instant. Donc, la Chine qui ralentit, le consommateur opportuniste qui ralentit et qui ne consomme plus, beaucoup moins en tous les cas, eh bien fait que finalement tout le secteur du luxe s'est fait démonter cette semaine. Vous voyez Hermès, donc c'est clair et net, hein, ça se passe de commentaires, la claque est monumentale, on est revenu au niveau de l'autre jour quand il y a eu l'histoire du carry trade, donc j'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas lâcher, mais je vois là directement qu'il y a un gap à aller combler là derrière, donc ça va être difficile, il y a un autre gap à aller combler là en bas. Donc on va se dire que potentiellement Hermès, ils peuvent largement redescendre à 1600 sur l'action. LVMH, bah voilà, c'est pareil. En termes de valorisation, on a bien corrigé. Hein. Rappelez-vous, quand à 900 balles, eh bien, les gens étaient prêts à vendre leur grand-mère pour acheter du LVMH. Eh bien aujourd'hui, on est revenu à 614. Hein, donc grosse claque. Là aussi, on peut aller chercher encore plus bas. Il n'y a plus rien qui nous retient, si ce n'est les 600 balles psychologiques. Mais il va falloir redynamiser tout ça. Richemont, vous voyez que les configurations techniques sont exactement les mêmes. Hein. Richemont, là aussi, il y a du gap là en bas à les combler. Donc vous pouvez là aussi imaginer que Richemont peut retourner allègrement sur les 100 francs suisses si l'inquiétude continue de se faire sentir. Ça tombe bien parce qu'il y aura des chiffres économiques qui vont sortir la semaine prochaine en Chine. Donc ça peut encore bien nous aider de ce côté-là. Et Swatch, alors Swatch n'a jamais vraiment rebondi, mais par contre, alors quand ça va mal, ils en profitent pour continuer à s'enfoncer. Donc voilà, là vous avez une tendance baissière parfaite. Vous voyez que les croisements des moyennes mobiles qui ont eu lieu au mois de juillet 2023, qui ont donné un signal de vente majeur, grosso modo autour des 280 francs suisses. Eh bien, pour l'instant, ils sont clairement bien établis, c'est même plus des moyennes mobiles, on dirait qu'elles sont fixes, et puis ça donne une tendance descendante. Et tant qu'on ne rentre pas au moins au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter sur Swatch. Donc on voit clairement que le luxe, eh bien, c'est une sale période pour le moment et c'est peut-être pas terminé. Le chart de Logitech qui ne fait pas dans le luxe. Alors Logitech vit surtout une grosse problématique au niveau de son management, puisque le fondateur, M. Borrell, est en train d'essayer d'éjecter le CEO en place et qu'il a proposé un administrateur pour la remplacer. Il y a eu une votation à ce propos et ça a été refusé. Donc Mme Wendy Baker a été confirmée en tant que CEO de Logitech, mais Borrell continue à vouloir dire qu'il va faire appel au tribunal et que c'est pas terminé. Alors pour l'instant, ben, ça fatigue un petit peu les actionnaires parce que franchement, on a envie de dire, et les gars, concentrez-vous sur la gestion de la boîte plus qu'autre chose. Mais par contre, pendant ce temps, regardez juste cette configuration technique. Alors celle-ci, c'est presque un peu trop facile à montrer, mais voilà. Vous avez ici une épaule, une tête et une épaule. Donc grosso modo, c'est ce qu'on appelle un head and shoulder. Et le head and shoulder, si ça se déclenche, si on déclenche cette cassure ici, eh bien on va répliquer la tendance haussière à la baisse. Hein. Donc on va aller chercher notre flèche ici. Bam! On a cette tendance-là. On va copier l'amplitude du mouvement, cassure à la baisse. Et donc Logitech peut facilement retourner en direction des 50 francs suisses. Pour autant, je dis bien que les 69 francs viennent à céder. Donc attention quand même sur Logitech. Ce qui est un petit peu dérangeant pour l'instant, c'est ce côté ultra politique. Et franchement, on n'a pas besoin de ça. Autrement, on notera cette semaine les excellents chiffres de Swiss Life. Enfin, ce n'est pas des chiffres canonissimes qui ressemblent aux chiffres de Nvidia, mais grosso modo, des très bons chiffres qui ont été surtout salués par la critique. Je crois que L'ensemble des analystes qui couvrent Swiss Life a aimé cette publication. Tout le monde se montre encourageant. Il n'y a pas forcément des révisions de target à la hausse, mais c'est plutôt pas mal. Et en plus, Swiss Life a annoncé au passage qu'ils allaient probablement encore augmenter leurs dividendes. Alors le titre continue de monter, les actionnaires touchent plus de dividendes. Que demande le peuple? Eh bien, tout simplement, Swiss Life est au plus haut de tous les temps. J'ai même pas besoin de vous montrer le graphique. C'est juste incroyable. Ça continue de monter. Et sur une semaine comme on vient de vivre, eh bien, c'était quand même pas forcément gagné d'avance. Et puis alors, je termine avec le graphique du bon Roche qui s'est pris une claque. De Novartis qui s'est pris une claque. De Nestlé qui continue de se prendre des claques, mais qui au moins n'est pas retourné à ses récents plus bas. Tout ça pour vous dire que on a ces trois titres-là qui se sont fait démonter quand même sur la semaine, mais que l'un dans l'autre, il n'y a absolument aucune nouvelle fondamentale liée aux sociétés. À ces trois sociétés, on n'a rien entendu, rien vu. Il n'y a pas de médicaments qui sont poisons, il n'y a pas de pipeline qui se ferme, il n'y a rien de spécial qui a été annoncé, mais vous avez quand même ces trois titres qui se prennent une claque. Donc ça représente bien le fait que cette semaine, on a vécu une semaine macro, pour ceux qui se posent encore des questions, et que finalement les indices étaient appelés à baisser, et que pour faire baisser la Suisse, le seul moyen c'est de taper sur les valeurs qui sont importantes dans l'indice. Donc quand vous voulez faire baisser le SMI, vous tapez sur les trois grands noms que je viens de vous montrer. Et quand vous voulez rebondir, quand vous voulez acheter le SMI, eh bien vous achetez les trois grands noms que je viens de vous montrer. Et c'est probablement ce qui s'est un peu passé cette semaine. En tous les cas, les sous-performances et les sanctions qui ont été appliquées à Novartis, Roche et Nestlé sont proprement injustifiées individuellement, mais justifiées du point de vue macro, puisque semble-t-il, tout est en train de ralentir et l'emploi américain ne fonctionne plus. Je ne vois pas forcément le lien avec Nestlé dans l'immédiat, mais effectivement, on parle surtout de ralentissement économique qui commence à faire peur à tout le monde. Et c'est vrai que quand on voit la tronche du SMI cette semaine, quand on voit la tronche des indices, eh bien, on sent vraiment que ralentissement économique, ça a l'air d'être quelque chose qui se concrétise un petit peu plus jour après jour. Autrement, en vrac, on notera que l'UBS va devoir comparaître devant les tribunaux pour l'histoire de la Bulgarian Connection, qui était normalement un problème du Crédit Suisse. L'UBS avait tenté de faire sauter le verrou de ce côté-là, mais c'est pas grave. Le tribunal fédéral a décidé qu'il devait quand même comparaître, vu que c'est eux qui ont acheté le Crédit Suisse. Du côté des assurances, on a vu Helvetia, qui a vu sa rentabilité stagner sur les 6 derniers mois à cause de tous les dégâts qui ont été causée à cause des intempéries. Remond d'énergie a annoncé une baisse de son bénéfice de plus de 70% et le bénéfice net a été quasiment divisé par deux. Et puis autrement, du côté de Temenos, alors Temenos a fini son rachat d'actions cette semaine, et mais au passage, on a aussi appris que monsieur Martin Ebner était dorénavant propriétaire de 7% de la société. Alors Martin Ebner, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les plus jeunes, eh bien c'est quelqu'un qui a eu pendant une grande période beaucoup d'influence, un des gros players de la fusion de Novartis à l'époque et bien d'autres après derrière. Donc c'est un raider, c'est quelqu'un qui est très agressif quand il s'y met. Bon, ça fait pas mal de temps qu'on a beaucoup moins entendu parler de lui, mais néanmoins, à noter que quand il prend une participation dans une action comme ça, c'est aussi pour commencer à faire bouger les choses sur le marché. Donc attention à Temenos, puisque Monsieur Ebner est de retour. La Baloise a été downgradée par l'UBS, alors comme pour le cas de Roche il y a quelques années, maintenant 18 mois en arrière, je crois. Quand un titre est downgradé par l'UBS, eh bien généralement ça fait très très mal, et donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'assurance baloise justement. Et puis Basilea a annoncé qu'ils avaient reçu un versement supplémentaire de 25 millions pour leur antifongique Cresemba. C'est un deal qu'ils ont avec Pfizer, donc c'est le 6e ou le 7e versement qu'ils reçoivent, mais c'est encore, c'est une bonne nouvelle pour Basilea qui reçoit un nouveau bonus. Voilà, conclusion, on vient de vivre une semaine macro. La semaine suivante risque de ne pas l'être moins, puisqu'on aura beaucoup de chiffres économiques la semaine prochaine. Et si la semaine dernière était la semaine de l'emploi, la semaine prochaine risque bien d'être celle de l'inflation, puisqu'il y aura le CPI aux États-Unis, il y aura également le CPI en Europe, et le CPI en Allemagne, le CPI en France, etc. etc. Donc côté inflation, on va en reparler. Logiquement, ces chiffres devraient baisser, ce qui semblerait plutôt évident. Et puis surtout, jeudi, on aura Big Day, jeudi, puisque jeudi, c'est la BCE. Le 12 septembre, la BCE se réunit et devrait baisser les taux de 0,25% supplémentaires. Donc c'est du attendu, mais quand on voit à la tronche de la performance industrielle et économique de l'Europe, on peut s'attendre clairement à voir une baisse des taux, sans compter que l'inflation, je le rappelle, est revenue sur le target des 2% en Allemagne. Donc on va dans la bonne direction. Donc la logique semble et devrait être respectée ce jeudi. À noter encore une chose la semaine prochaine, c'est qu'il y aura également le PIB japonais qui sortira lundi. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on ne sait jamais si le PIB venait à être un petit peu trop fort. On pourrait éventuellement reparler de hausse des taux au Japon, et hausse des taux plus baisse des taux aux USA pourrait nous ramener un petit peu sur le sujet du carry trade, bien sûr. Et puis, pour conclure la semaine, on aura les chiffres de l'University of Michigan Confidence, chiffres qui sont à peu près aussi valables et intéressants que les chiffres de l'emploi américain. Mais enfin, bref, on le regarde toujours un petit peu. Et puis, parlons un tout petit peu politique, puisque gentiment, on s'approche des élections américaines. Chaque jour qui passe nous en approche un peu plus. La semaine dernière, Kamala Harris a annoncé un nouveau plan qu'elle voulait mettre en place, à savoir des capital gains sur les actions américaines, sur les gens qui ont des actions en portefeuille, mais avant qu'ils soient vendus. Donc jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas taxé tant que vous vendiez, mais elle veut vous taxer si vous faites un gain en capital. Résultat, ça risque d'être juste le massacre et le bain de sang sur les marchés américains, sur les marchés en général, si elle met en place cette nouvelle taxe. Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est jouable? Mais en tous les cas, c'est pas forcément bien accueilli et bien interprété du côté des milieux financiers. Aujourd'hui, on sait que les Américains ont le choix entre la peste et le choléra, mais clairement, il semble que Madame Kamala Harris est la pire solution qui pourrait arriver pour le côté financier aux États-Unis. Mais enfin, affaire à suivre. On va beaucoup en parler ces prochains temps. Évidemment, c'est difficile de savoir lequel des deux il faudrait souhaiter, mais on va y être très attentif et on en parlera encore beaucoup. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, le 11 septembre, chez Swissquote à Gland, il y aura une conférence, une présentation où je serai, et on va parler justement de ces conséquences des élections américaines et du risque éventuel et de ce qu'il faudrait éventuellement faire. Pour autant qu'il y a quelque chose à faire. Si vous voulez vous inscrire, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, si j'ai pas oublié de le mettre. Et puis autrement, bah, comme d'habitude, passez un excellent week-end. Nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis d'ici là, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager. Et puis, by the way, on a passé les 41 000 followers. Les 50 000 se rapprochent. Allez, bon week-end à tous, soyez forts, à lundi. Bye bye.